Vous parlez du ponton. Est-ce que vous avez approché les communes?
C'est-à-dire?
Je sais pas, Vernier,
Alors,
Mérin, s'ils disposent pas de locaux qui pourraient vous mettre à disposition.
ça avait été fait. Donc, au moment de la lutte nos bunkers, on avait fait toutes ces démarches-là. Et d'ailleurs, on peut le dire maintenant, puisque M. Podget nous a demandé de nous taire absolument sur ces projets-là. Pour avoir une chance de les faire aboutir, mais vu qu'après 2 ans, il n'y a rien qui de toute façon a été fait. Il y avait 14 terrains, 14 lieux ou terrains ou maisons qui avaient été ciblés lors de nos discussions avec M. Podja par l'État pour accueillir des projets de construction réels des gens. Donc dedans, il y avait à la fois des maisons style Mérin, par exemple, comme des terrains abandonnés où il faudrait viabiliser le terrain, etc. Dans plusieurs communes, sur plusieurs terrains, il y a eu beaucoup de choses. Il y avait 14 où c'était faisable. De ces 14, il n'y en a aucun qui est arrivé à jour. Aucun.
À Vernier, ils ont construit quelques places pour se faire heurler les mineurs.
Non, mais le grand projet de Vernier, une fois de plus, a été... Donc il y a eu des oppositions au niveau communal et au niveau des habitants,
comme partout,
comme souvent, et ça a été extrêmement, on va dire, déformé, cette opposition, parce qu'on est allé voir les habitants et les collectifs proches qui faisaient opposition, ils disaient, mais nous, on ne s'oppose pas du tout à la vue des personnes ici, on s'oppose à la manière dont c'est fait, parce qu'il n'y a rien qui est prévu. On va nous poser un bâtiment pour mineurs à Vernier, sans aucune infrastructure autour, c'est pas acceptable. Si on a un bâtiment avec des personnes en exil mineures, il faut que l'État fasse suivre les infrastructures. C'est pas possible. Et on a fait passer ça pour une opposition de type « on veut pas de migrants chez nous », ce qui est probablement vrai pour certaines personnes. On va forcément trouver les habitants de Vernier qui vont dire ça. Mais assez clairement, je sais pas si vous étiez présent à la réunion, dont il y avait les articles dessus, à la réunion de présentation de ce projet, où il y a eu effectivement une salle assez hostile aux autorités à ce moment-là, c'est vraiment très clair que les personnes s'opposent à l'absence totale de planification d'un quelconque accueil digne des personnes.
Prise en charge.
On ne pose pas un bâtiment avec 100 mineurs nous, quelque part, comme ça, en disant bah voilà, ça se passera très bien. Et donc, l'autre chose que je voulais aussi rajouter, nous, on a fait beaucoup ce travail-là, d'aller voir des gens, comme on vous le disait. Les deux seuls bâtiments importants peuvent être imputables au collectif de lutte autour de ces questions. Mais à un moment aussi, ce n'est pas notre boulot. On n'est pas l'Hospice Général. On n'est ni M. Giraud, ni M. Podja, ni le Conseil d'État. Et ce n'est pas à nous de faire ce travail. On l'a déjà fait 2 fois. Wow. On leur a sauvé 350 places de logement, on va dire. Ouvert à Pia et sauvé Franck Thomas. Sinon, ces 350 places n'existeraient pas. On serait quoi? 350 places, 50, 70 personnes par bunker, je vous laisse calculer. Monsieur Podja se vantait à la fin de l'année 2017 d'avoir réussi à fermer un bunker. Moi, je ne vois pas tellement ce qu'il a fait pour l'instant. On a des petits projets, c'est-à-dire qu'il y a des petites maisons qui ont ouvertes pour loger une, 2 familles. On a des petites villas qui ont été ouvertes. On ne résout pas une situation qui était censée être catastrophique, afflux massif, en ouvrant 3 villas. On construit des places d'hébergement. On construit des centres d'hébergement. On les construit dans des bonnes conditions.
Et durablement.
Et ce n'est pas à nous. Nous, on va s'arrêter dans cette voie-là. On ne va pas passer notre vie à aller voir les communes, ni à pointer tout ce que pourrait faire l'État, qui sait qu'il pourrait faire, mais qu'il ne fait pas. Nous, aujourd'hui, surtout que, à force de l'avoir fait, ouais, c'est ça.
À force de l'avoir fait,
on l'a fait longtemps, on l'a fait quasiment 2 ans. Mais à force de le faire et que rien ne se passe, on ne peut que se dire, non mais, il n'y a pas de volonté en face. D'où cette mobilisation qu'on pose sur un peu d'autres bases. On ne peut plus croire maintenant en cette impossibilité de faire des choses en cette...
Et dans à l'époque, les communes, si je prends un certain nombre de communes, s'étaient opposées à l'idée d'ouvrir un certain nombre de bunkers, parce qu'il y avait eu cet appel du Conseil d'État, il faut vite ouvrir des bunkers, parce que certaines communes avaient mis les pieds au mur, mais pas par rapport aux migrants, par rapport au fait que c'était des bunkers. Et il y avait eu des propositions et des discussions, je le sais, notamment pour Carouge et Aunay, où il y avait eu des propositions d'autres structures. Qui n'ont jamais vu le jour. Moi, je connais bien les négociations que Podja a et l'Hospice Général a avec les communes. Il faut voir aussi l'état des négociations. C'est, vous n'avez pas un projet vous n'avez pas la place pour plus de 200 places. Bon, ça ne nous intéresse pas. C'est ça la teneur des débats. Et puis en même temps, ils cherchent les 200 places, puis en même temps, ils ne veulent pas ouvrir. Et tout à coup, là, ils font pression sur des maisons où il y a 14 places, mais ils veulent que des projets à 200. C'est complètement schizophrénique, leur truc. Je veux dire, sur la ville de Genève, par exemple, Pagani proposait des terrains pour 150 places. Ils disaient, ah non, nous, on ne prend pas, c'est pas rentable de 150 places. Oh, ok, c'est pas rentable, mais les gens, ils crèvent quand même sous terre, quoi. Disons, ça, c'est indéniable. Donc là, il y a un vrai problème de volonté politique. Et maintenant, disons, ils peuvent choisir. Ils peuvent choisir quelle politique ils veulent faire. Soit ils assument maintenant, politiquement, qu'ils enferment les gens, qu'ils les laissent sous terre et qu'ils s'en foutent. Pas de problème. Nous, on combattra différemment que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, où on pensait qu'on avait un conseil d'État qui pouvait encore, sous forme de pression, en discutant, en foutant un peu la pression, ouvrir des projets, se dire qu'il y avait un constat partagé. C'était de ça qu'on partait. Nous, on se disait, bon, Podja, il a l'air d'entendre que les gens, ils souffrent là-dedans. Puis à partir de là, on peut construire des solutions. Visiblement, ce n'est pas le cas. Donc soit ils assument cette posture-là, soit ils nous prouvent le contraire. Et ils mettent un plan de 560 places à réaliser d'ici 2018. Ça fait 2 ans et demi qu'on l'attend, ce plan. Donc,
Vous avez des mots durs.
Ouais, c'est dur. Ouais.
Podja, mais,
ouais.
Vous avez quelle relation avec lui? Enfin, quelle relation vous entretenez avec lui? Je ne sais pas, peut-être vous envoyez des courriers, il vous fait un acte de réception, vous n'avez pas de réponse, mais...
On a eu des relations, on va dire, suivies depuis l'été 2015, avec des rencontres, on va dire, plus que mensuelles au début, à peu près bimensuelles, on va dire, pendant...
6 mois.
Ouais, un peu plus, même 8 mois, on va dire, jusqu'au premier trimestre 2016, date à laquelle Podja a décidé de ne plus nous rencontrer, ce qui lui appartient, voilà. Mm-hmm. C'était, donc au final aussi, nous, on arrivait à un point où on se disait, mais pourquoi on se rencontre? Parce que, oui, on veut bien se rencontrer, mais si c'est pour...
Que rien n'avance.
Que rien n'avance, voilà. Monsieur Podja a décidé qu'il ne voulait plus nous rencontrer, donc nous, évidemment, ça n'a pas arrêté la lutte ni les...
Après, ça a pris d'autres formes, les rencontres avec Podja, c'est-à-dire que c'est d'autres acteurs qui sont en lien avec nous, comme sur Franck Thomas, comme sur d'autres. Il y a eu la coordination Asile, il y a eu différents acteurs, disons, pas directement de Poste Frontière, mais disons, qui ont eu contact. Maintenant, on n'a plus de contact institutionnel concret. Disons, on n'a pas une délégation de négociation comme on l'avait pendant le temps de nos bunkers. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas ça l'enjeu. Nous, on a des engagements de la part d'un conseil d'État qui a pris des engagements devant la population, c'est pas devant nous. Moi, je m'en fous. Disons, concrètement, moi, j'ai aucune illusion sur ce que Podja et Modet veulent faire. Je n'en ai aucune. Maintenant, ils ont pris un engagement devant la population en disant « c'est pas humain ce qu'on offre comme traitement, on va fermer ces bunkers ». Il l'a dit. Il l'a dit à fin 2016. On est fin 2016, on a 400 personnes sous terre. À quoi il répond? Moi, je veux entendre M. Podja répondre à la population. Moi, je suis aussi citoyen de ce canton. Je veux qu'il me dise à quoi servent mes impôts. Est-ce qu'ils servent à construire des prisons ou à accueillir dignement les gens qui sont dans le besoin? Moi, je veux qu'il réponde à cette question-là. Il ne répond pas à cette question-là. Donc moi, je veux que Podja et le Conseil d'État dans son ensemble nous disent « voilà, nous, ce qu'on a prévu pour l'accueil des réfugiés. Il n'y a rien, ou des prisons, ou alors des logements. » Répondez.
Et pourquoi vous ne lancez pas une initiative populaire, par exemple?
Une initiative populaire, sur quoi?
Sur ce que vous demandez. Pourquoi vous n'inscrivez pas dans la loi un petit peu ce que vous demandez?
Parce que, premièrement, c'est dans la loi. L'accueil, le devoir d'accueillir les gens, c'est dans la loi. Oui, le devoir de ne pas les maltraiter, les êtres humains, c'est dans la loi, c'est la Constitution. À mon avis, si vous voulez, mon analyse juridique, c'est qu'actuellement, le Conseil d'État est hors la loi dans ce qu'il fait. Il n'accueille pas correctement les gens, il les pousse à partir, il dégrade les conditions de vie. À mon avis, ces gens-là portent plainte devant le tribunal. Ils gagnent face à l'État de Genève pour maltraitance. Ils le gagnent, je suis sûr et certain. Vous avez demandé à des gens qui ont traversé la Méditerranée, qui sont venus là dans des conditions affreuses, qui ne savent même pas s'ils vont pouvoir rester, etc. Vous leur demandez de porter plainte, il faut avoir de l'argent, il faut des avocats, c'est des procédures qui vont durer 4 ans, au minimum tribunal fédéral, peut-être cour européenne. Non, c'est pas sérieux. À un moment donné, nous, on peut faire une initiative, oui, construisons du logement pour migrants, par exemple. On peut faire une initiative. De nouveau, ça dépendra de la mise en application par le Conseil d'État, de la volonté. Si le Conseil d'État ne va pas devant le Parlement pour demander des budgets, pour construire, elle ne défend pas une politique, ça n'arrivera pas. Le problème, il est là, c'est que c'est pas, on ne peut pas vraiment faire quelque chose à part mettre une pression politique sur le Conseil d'État pour qu'il prenne réellement ça. C'est comme la part ça, c'est la même chose sur le logement en général.
C'est ça.
Le logement en général, on peut faire une initiative demain, il faut construire plus de logements. Alors, on l'a fait.
Sauf on pourrait loger les migrants.
Concrètement, ça force en rien du tout le Conseil d'État à poser une seule brique. L'initiative qu'on a déposée sur la construction de logements. Elle force à, quand il y a une construction, comment elles sont construites.
Mais donc, peut-être que la réponse, s'il y a une réponse du Conseil d'État, ça sera de dire, mais vous voyez, on a compté 560 places là. On veut un plan sur 560 places qui prenait les bunkers et le foyer Appia. Si le Conseil d'État nous répond, vous comprenez, on a 563 voix prévues en plus pour l'année 2017.
Ben ouais.
Très bien, on va l'entendre. Ouais. Moi, je ne serais pas étonné quand. En fait, c'est ce qu'on dit justement. Nous, on pense que c'est ça, en fait, le projet. C'est ça, les projets, en fait, en cours. Parce que là, il y a des lignes budgétaires. Le foyer des tuyaux, la destruction du foyer des tuyaux, la construction du centre de renvoi fédéral, qui a été d'ailleurs une volonté des autorités. Personne n'avait obligé Genève à construire un centre de renvoi à Genève. C'est une volonté de faire de Genève une plateforme d'expulsion. Romande d'expulsion. Et je veux dire, ça, personnellement, je suis complètement opposé. Et ces lignes-là, elles y sont.
Les lignes budgétaires au Conseil, il faut regarder. Il n'y en a pas une pour un projet de construction. Cette année, c'est 24 millions pour le projet des prisons. Mais ça, en tout, c'est, sur les deux dernières années, c'est 72 millions pour les prisons administratives.
Oui, mais là, vous mélangez tout parce que les prisons, elles sont obligées d'être rénovées parce qu'elles sont aux normes.
La nouvelle construction, de la prison administrative. Non, pas la Brenna. La Verdelle.
Oui, mais deux, ça, c'est...
Et la... Eh oui, non,
parce
on mélange pas
tout.
Parce
qu'il y a trop de gens.
Pourquoi il y a trop de gens? Pourquoi il y a trop de gens? Il y a... 150...
C'est pas le même sujet, je trouve.
Si, exactement le même. En 2011, il y a 3443 incarcérations.
Non, mais je suis désolée, madame.
Attends.
Ouais. Vous les gardez
de cliver la politique.
Elle pose des questions.
Il y a un moment donné, le Conseil d'État, il présente ses projets. Nous, la majorité d'entre nous, on est présents quand ils font les présentations. Ouais. Et puis, c'est pas, ils sortent comme ça, 38 millions pour rénover. C'est que ça, ils sont obligés de le faire. Donc, je trouve que c'est un petit peu facile de prendre.
Quelle rénovation il y a
des dardelles, c'était la dernière en date, ils vont construire et puis ils sont dans un serpent de mer par rapport à Chandelon et puis c'est pas du tout le même sujet en fait.
Si, mais j'ai expliqué
c'est
pourquoi.
C'est pour ça que j'aimerais savoir est-ce que tu veux en venir.
Non mais c'est la question de la politique qu'on gère, comment on gère les politiques. En 2011, on est à 3443 personnes incarcérées à Genève. 3500 personnes qui sont incarcérées en 2011. En 2014, c'est 6300 personnes qui sont incarcérées. Donc on a doublé quasiment le nombre de personnes qu'on a incarcérées. Si tu regardes les motifs de pourquoi on a incarcéré, il y en a 1500, c'est sur infraction à la loi sur les étrangers. Avant 2011, avant Journeau et Maudet, on n'enfermait pas les gens pour infraction à la loi sur les étrangers. Maintenant, on les enferme, ou soit en prison administrative, soit à Chandelon. Évidemment, ça a une incidence. C'est pour ça que j'ai dit, actuellement, les migrants, j'ai un Algérien qui m'a appelé encore hier, ça fait 10 mois qu'il est en prison. Il sait très bien qu'ils ne pourront jamais être expulsés parce qu'il n'y a pas de procédure de réadmission en Algérie. Donc, il ne va pas pouvoir être expulsé. Ils sont obligés de les garder là. Mais il est en infraction avec la loi sur les étrangers parce qu'il n'a pas d'autorisation de séjour. Et il fait quoi ? 10 mois de tôle. Et tout le monde sait, le département, la prison, tout le monde sait que ce gars, il va sortir, il va faire 3 mois à l'extérieur, ils vont le rechoper et ils vont le remettre jusqu'à 18 mois en prison. Ils peuvent les garder 18 mois sans jugement. 18 mois. Et on a actuellement 1500 personnes qui sont enfermées sur infraction à la loi par année sur la loi sur les étrangers, uniquement. Pas de cheat, pas de trafic de drogue, rien. Loi sur les étrangers. C'est pour ça que c'est connecté, ces politiques-là. Je ne dis pas que, bien sûr, que Chandelon, il y a de la surpopulation et qu'il faut faire quelque chose. Je dis juste que quand tu arrêtes massivement les étrangers et que tu les mets, qui sont en situation illégale, et que tu les mets en prison, tu surcharges les prisons. Après, tu dis « Oh, on a besoin d'argent pour les prisons, donc on met du pognon. » On ne les loge pas, ces gens. On les loge pas. Et ces gens vont rester sur notre territoire. Il ne faut pas faire croire qu'ils vont partir. Donc, c'est là où il y a une connexion entre ces deux sujets-là. C'est comme la création du centre de détention, centre de renvoi ou centre de départ, comme ils le disent. C'est comme
qu'ils appelleront pas prison d'ailleurs.
Non, ça sera
en l'occurrence. Évidemment, parce que ce n'est pas une prison.
C'est pas une prison.
C'est une gestion de l'accueil. C'est là aussi. C'est ça aussi qu'on essaie de dire. À mon avis, c'est vraiment que on veut vraiment détruire toute vision d'une politique d'accueil pour la transformer en une politique carcérale qui permet ou qui favorise les renvois. C'est ça en fait qui doit se passer. Et pour aussi revenir sur l'enfermement, on va probablement communiquer dans les semaines qui viennent là-dessus. On voit une correspondance quasi exacte de l'augmentation de la surpopulation carcérale à Chandelon en rapport avec l'application de la directive Journeau. Quasi exacte, on voit exactement les courbes changer, augmenter selon l'application de la directive Journeau, qui a d'ailleurs dit il y a quelques années, on a vu une baisse de la population au moment où Journeau a dit on ne va plus appliquer de peine pénale pour les personnes. Pour les personnes sans papier, donc en infraction à la LETR, et on voit la correspondance. Elle est immédiate. Donc,
Et puis, juste, alors là où tu as raison, il y a un truc où ils sont obligés, entre guillemets, je mets des guillemets, c'est qu'il y a une politique fédérale du droit d'asile. Et puis, alors là, la population suisse, évidemment, a voté n'importe comment sur les derniers trucs. Et puis, oui, mais elle cautionne, il y a une caution, il faut le dire, actuellement, la majorité de la population emmenée par l'UDC, parce que même s'ils étaient contre, sur le coup, ils sont là-dessus, et une caution de ce genre de politique-là. Mais à Genève, je pense vraiment qu'il n'y a pas la caution de ça. Il y a une autre tradition. Il y a une autre tradition d'accueil des sans-papiers. Il y a une autre tradition de gestion de ça. Et depuis que journaux modestes sont arrivés, ça a changé, ça. Ça a changé. On voit partout. On voit demander aux syndicats qui gèrent les questions des sans-papiers. C'est la même chose. Il y a des condamnations extrêmement lourdes sur des gens qui n'avaient pas avant. Et là, c'est comment on s'interroge. On a 30 000 travailleurs sans-papiers à Genève, par exemple. Qui travaillent, hein, qui vous servent au restaurant, qui bossent sur les chantiers, etc. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on va dire ? Ils ont fermé à Chandelon. Donc là, il y a eu un vrai enjeu, je crois, de société, au-delà de la question simplement de l'accueil, mais vraiment de comment on gère les gens qui sont là, qui ne font rien de mal à paraître là, et vers où on donne les ressources. Est-ce qu'on essaie d'intégrer les gens ? Est-ce qu'on essaie de les accueillir ? Est-ce qu'on essaie de les loger correctement ? Ou est-ce que simplement on a une politique répressive de ça, donc c'est-à-dire, vous êtes en infraction, vous allez en prison, on vous expulse. Puis on met l'argent là-dessus. C'est ça qu'on dit, c'est pas plus autre chose. Et effectivement, les premières mobilisations, même du stop exclusion, de ma Genève par exemple, vous vous rappelez, mobilisation qui était en été 2014, ça fait rare, ouais, c'était l'été d'avant nos bunkers, qui s'opposait de manière très large, même avec des membres du PDC, je veux vous dire, disons, de loin pas des révolutionnaires. Qui était contre l'idée de faire de Genève un hub d'expulsion à la place. Et le deal, et puis c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a un deal fédéral là autour. Quatre personnes expulsées, c'est une personne de moins à gérer sur le territoire. Donc, requérant. C'est le deal. Très clair. Model a déjà dit, publiquement. Donc si on expulse quatre personnes, on a un de moins qui est assigné à Genève pour s'occuper. Et pour modèle calcul, il est vite fait. Ok, bah on expulse massivement. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir des structures d'accueil pour intégrer des gens. C'est pour ça qu'il y a un vrai choix politique là-dedans.
Mais c'est un choix politique dont nous, on annonce déjà l'échec. Tout comme avec Schengen, tout comme avec la fin de l'arrivée des migrants en Suisse. On sait que ça va être un échec. On sait qu'il y aura toujours des sans-papiers, des personnes qui arriveront en Suisse. Parce que ça, la seule chose que ça risque de faire, c'est que les personnes vont simplement ne pas prendre la procédure d'asile, partir à côté, être directement complètement
mais...
la procédure d'asile. C'est la seule chose que ça risque de créer. Les gens seront toujours là. Sauf qu'alors, par contre, dans les chiffres, on pourra dire, ah oui, on a moins de personnes en accueil.
Mais à part ça, on n'est pas si dur. J'ai fini mon truc en disant, on leur demande de faire un plan. Nous, on est confiants de nos autorités qui vont nous faire d'ici la fin du mois un plan de 560 places pour reloger les migrants dans la dignité en dressant le drapeau suisse et le drapeau genevois en dessus en disant regardez comment on accueille bien. Moi, je suis confiant là-dedans. C'est pour ça qu'on s'adresse à eux. Et on va même se mobiliser dans le froid un soir avec des lumières pour leur dire mais regardez, on est avec vous. On veut 560 places et on a confiance en notre gouvernement qui va le faire. Donc je trouve que t'es un peu dur de dire
qu'il y a aussi sur ces mots durs aussi pour un peu le... Je sais pas si ça a quitté un peu chez vous le mot de l'imposture, qui est quand même, pour revenir là-dessus, c'était le terme de M. Baudet qui, après 3 semaines de mouvement avec des milliers de personnes dans la rue, disait « Ah, le collectif No Bunker est une imposture. » Et là, quand même, je pense que les milliers de personnes qui avaient manifesté l'ont eu un peu en travers de la gorge.
Deux ans et demi après, on peut dire.
Monsieur Poggia avait confirmé, d'ailleurs, oui, on peut effectivement dire que c'est une imposture. Nous, 2 ans après, alors les mots durs, je ne sais pas de quel côté ils sont. En tout cas, ils ne sont pas plus durs d'un côté que de l'autre dans ce cas-là.
Nous, on pose la question. On dit, est-ce que le Conseil d'État est une imposture ? Et donc, il a jusqu'à la fin du mois pour nous répondre.
Pour éventuellement démentir.
Pour démentir,
ouais. Allez, là, il faudra des chiffres. Là, il faudra des preuves. Ça ne suffira pas de dire...
On espère qu'ils vont démentir le fait qu'ils sont une imposture. Puis qu'ils vont faire une vraie politique d'asile, on espère.
Et un argument qui revient souvent pour ceux qui s'opposent à ce genre de construction, c'est qu'on ne veut pas faire de Genève un paradis pour requérants. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Chaque Poggia, il le dit souvent.
Et vous...
Mais c'est pour... À part pour les riches, c'est un paradis pour qui, Genève ?
Vous êtes à... Je sais pas, tu as déjà été à Apia ? T'as déjà été à Apia
ou au TAT?
Oui, bien sûr.
Ou dans un bunker?
Bah,
ouais, paradis, il est un peu loin encore.
Non, mais je sais, mais attendez, je parle pas du tout des conditions actuelles. Ouais. Non, bien sûr que non. Mais justement, il dit avec l'ouverture de l'étoile pour le foyer, pour les mineurs, par exemple, c'est quand même quelque chose tient la route. On a vu ce que c'était à l'intérieur. Je ne parle pas du tout des têtes qui sont, mais juste dans des conditions. D'ailleurs, l'Hospice Général ne nous laisse pas aller faire des reportages.
Comme par hasard.
Tout ça me renseigne.
On sait pourquoi. Mais peut-être que si vous construisez 560 logements pour des requérants seuls et tout ça, lui, son argument, et puis il y a une partie de la population qui est derrière lui, c'est dire, ah, on ne va pas faire un paradis pour les requérants, et puis il joue beaucoup là-dessus.
Bon, deux choses, qu'est-ce que vous pouvez vous la répartition des requérants sur le territoire suisse ne dépend pas de Genève. Donc déjà, premièrement, et les gens, ils ne rentrent pas par Genève en Suisse. Mmh. Ils rentrent par le Tessin, ils rentrent par Vercingale, par là-bas. C'est ça, les couloirs, disons, d'arrivée des migrants. Donc, ils n'arrivent pas à Genève. S'ils arrivent à Genève, c'est qu'ils ont été orientés, pour la plupart. Après, il y a une série qui arrive par leurs moyens, mais pour la plupart, ils ont été orientés via une procédure d'asile au niveau suisse. Donc, premièrement, ce n'est pas vrai que ça va faire une attraction.
Ce n'est pas le nombre de places d'hébergement qui va changer. Qui conduit au nombre de personnes qui viennent à Genève.
Exactement. Et donc, ça, c'est des quotas fédéraux. C'est 5,6% du nombre au niveau actuel.
Et puis aussi, l'autre chose aussi à dire quand même là-dessus, c'est qu'on est dans une situation où Genève a une population actuellement de personnes en exil qu'elle doit prendre en charge. Ouais. Et ça, c'est la loi. Ouais. Ils sont obligés de les prendre en charge. Et à partir du moment où ils reconnaissent que c'est indigne de les loger en bunker, il faut faire quelque chose. On n'est même pas sur un truc de Paris, on est sur une situation, de fait, maintenant, on parle de 560 places parce que c'est... et peut-être qu'on ne connaît pas d'ailleurs d'autres fermetures de foyers, ça, il y a des choses peut-être qu'on ignore, évidemment, mais on parle d'une situation aujourd'hui. On ne dit pas... On ne dit pas qu'il faudrait 10 000 places pour l'année 2018 parce qu'il faudrait 10 000 places.
Il n'y a aucune exigence, de d'accueil supplémentaire de population, etc. Dans nos revendications, ce qui par ailleurs serait une bonne revendication. Mais là, actuellement, nous, ce qu'on veut, en tout cas, c'est que la prise en charge des gens qui sont actuellement sur le territoire genevois soit correcte, soit humaine. Quoi. L'accueil doit être humain, c'est tout. C'est ça la revendication. Après... Puis je crois que pour être allé à Apia, pour avoir été dans pas mal de ces foyers au TAT, franchement si ça peut faire appel d'air avec des migrants, c'est qu'il y a vraiment du souci à se faire. Parce que, disons, c'est là, une de nos camarades qui était sur place beaucoup disait c'est la jungle, les TAT, c'est la jungle.
La question, elle peut être retournée dans le sens qu'on pose la question aussi de savoir, parce que l'État s'est toujours défendu à corps et à cri, de vouloir dégoûter les migrants de venir en Suisse et à Genève par des procédures de plus en plus dures, par des renvois de plus en plus nombreux, etc. Aujourd'hui, c'est une question qu'on repose. Ils ont répondu non, ce n'est pas vrai, on ne veut pas dégoûter les gens. Bah, écoutez, il nous manque quelque chose pour pas reposer cette question, en tout cas depuis 2 ans. Donc, plutôt que de... À mon sens, la question, ce n'est pas de savoir si on ferait de Genève un paradis pour les migrants, mais si réellement l'État n'est pas en train de faire en sorte par sa politique de dégoûter les personnes en exil de venir à Genève. Et c'est une question qui reste légitime, malgré qu'elle ait été délégitimée à de nombreuses reprises par les autorités pendant 2 ans. À notre sens, elle a toujours été légitime, mais elle le redevient d'autant plus après 2 ans et l'absence totale de projet.
Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez entendu cette interview que M. Poggia a donnée à la RTS mi-décembre. Justement, relayé dans l'article du courrier là, où il annonce quand même justement la fermeture de tous les abris à la mi-2018. Et il annonce aussi dans cette interview quand même une autorisation de construire pour 2000 places supplémentaires, enfin pour faire des 1200 places, pardon, pour des foyers. Il annonce, pardon, que les autorisations de construire ont été données pour ça.
Non, attends, des fois, nous, ça fait 2 ans que nous, on a ce discours-là en face. Donc, nous, on avait les 14 projets qui faisaient 200 places là, 150 places là, 100 et quelques places là, etc. Ça fait 2 ans et quelques qu'on attend, qu'on voit, on n'a vu aucun de ces projets arriver.
Ouais, ouais. Donc, effectivement, ça explique pas le retard.
C'est possible. Moi, je connais bien les rythmes institutionnels, donc je sais que c'est long. Je sais que ça peut être long, qu'il y a des oppositions, etc. Mais il peut pas. Là, M. Poggia s'est engagé à des choses. Publiquement, il avait déjà dit. Les premières discussions qu'on avait dit, c'était fermeture à fin 2015 des bunkers. Quand on discutait en août. Après, il a dit ouais, j'y arriverai sûrement pas. Ce sera sûrement au printemps 2016. Ok, bon, d'accord. Après, c'était fin 2016. Maintenant, c'est plus même fin 2017. C'est mi-2018, quoi. Ouais. Donc, chaque 6 mois, on perd 2 ans. Donc, à ce rythme-là, dans 2 ans, on en a pour 20 ans avant qu'il y ait une place qui soit construite. Disons, si on réfléchit comme ça. Donc, moi, peut-être qu'il a des projets qui vont arriver, mais qu'ils annoncent publiquement que oui, ils ont des solutions. Quand est-ce qu'elles vont arriver? Et où est-ce qu'elles sont? Parce que de toute façon, c'est des oppositions, il y aura. Il faut éviter les oppositions. Les gens, il y a des oppositions et il faut aller débattre. Et ça, c'est le rôle des collectivités publiques, c'est le rôle du Conseil d'État, d'aller débattre et d'aller expliquer aux citoyens pourquoi c'est important de créer ces places. Et moi, je pense que ça, c'est le rôle des collectivités. Moi, j'ai aucun problème à aller discuter avec les habitants autour pour leur expliquer pourquoi c'est important d'ouvrir des places, comment on peut ouvrir des places pour qu'ils soient intégrés aussi les habitants dans la réflexion, dans les choses. Je pense que ça c'est leur boulot, je veux dire.
Ah, je pense qu'il y a quand même l'abri de Valavran là, qui a fermé récemment à Bellevue, où les requérants qui étaient ont été regroupés à Versoix. Ouais. Et puis l'abri de Valexer aussi qui a été fermé récemment, ou qui va fermer, je ne sais pas exactement. Donc il y a quand même des choses qui se passent.
C'est conjoncturel.
Podia annonçait, vous prenez dans votre article, annonçait donc qu'un abri avait fermé, que 2 abris fermeraient en 2017. On peut dire quand même que comme résultat, après une promesse faite en août 2015 de fermeture des bunkers, réussir à fermer un abri et annoncer qu'on va en fermer 2 et peut-être tous les fermer jusqu'à fin 2018, premier semestre 2018, c'est un peu faible. D'autant que si on compte 170 places à Apia de bunkers, c'est-à-dire qu'il a fait quoi ? On ne veut pas se jeter des fleurs, c'est pas nous qui avons construit Apia, c'est pas nous qui l'avons rénové, mais je veux dire, le foyer Apia obtenu par un de bunkers a permis qu'il y ait 2 bunkers, ou 3 même, qui ferment. C'est-à-dire, les résultats, ils sont pas acceptables, ils sont pas acceptables aujourd'hui après 2 ans. Alors, qu'il y ait peut-être un jour 1200 places qui ferment, est-ce qu'elles vont, 170 de moins à Apia, 170 de moins au Tilleul, déjà 400 personnes à loger, c'est acceptable, c'est trop faible, c'est pas possible. Et là, on...
Non, mais à part ça, si on fait le calcul, il y a une baisse des arrivées des migrants, clair. Donc, tout le long de la discussion de nos bunkers, on était en arrivée positive. Chaque mois, c'était 50 personnes qui arrivaient sur le territoire genevois, dans les discussions à peu près. C'était à peu près 50 personnes qui arrivaient. Là, il y avait une vraie compréhension, même si je ne suis pas d'accord avec toute la politique qui est faite, une vraie compréhension qu'il y avait une difficulté à fermer des lieux alors que sans cesse des gens arrivent et que du coup le truc était déjà saturé. Maintenant, c'est le cas, la balance elle est négative. Chaque mois, elle est négative. Donc les gens partent de Genève.
Sont renvoyés.
J'ai pas dit que c'était volontaire. Partent volontairement ou non de Genève. Mais il y a une balance négative. Donc forcément que ça permet de fermer un ou deux foyers comme ça. Le problème, c'est que ce qui s'est passé, la crise qui s'est passée en 2015, elle va se reproduire. Je veux dire, ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe, ça ne va pas changer. Quoi. L'année prochaine, c'est toujours là. Dans 2 ans, c'est toujours là. On a des régions qui vont durablement s'inscrire dans des crises humanitaires, dans des crises de guerre, etc. Et ça va aller empirant à un certain nombre. On sait. On peut se voiler la face complètement. On peut dire non, ce n'est pas vrai. Mais on le sait. Et donc, si on ne rattrape pas le retard de construction en dur de solutions qui seront mobilisables dans des périodes où ça va remonter, parce que ça va remonter, eh ben on aura exactement la même crise avec les mêmes problèmes qu'à l'été 2015. Et eux, ce qu'ils jouent, ils jouent l'attente. C'est-à-dire ils savent que c'est en train de baisser. Donc ils se disent comme ça, on va pouvoir fermer. Ils savent qu'il y a le centre fédéral qui va se construire, le centre de renvoi. Voilà, ils vont dealer leur truc. Ils auront besoin d'accueillir un petit peu moins de monde parce qu'ils en expulseront plus. Et puis, ils jouent comme ça. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est qu'en fait, il n'y a pas de volonté politique de mettre en place des structures qui permettent, en cas de problème, et actuellement, puisqu'on est en situation de problème, de prendre en charge correctement les gens. Et ça, Moi, je suis pour qu'ils nous disent qu'il y a 1200 places.
Apparemment, si on reprend la formulation de votre article, c'est des autorisations de construire pour 1200 places supplémentaires auraient été délivrées. Le conditionnel, après 2 ans, là, c'est un petit peu... Ça commence à être un petit peu lourd, quand même. Un conditionnel maintenant, et d'où le fait que voilà, nous on veut bien entendre ces projets, on veut bien, mais par contre, on peut plus accepter maintenant. Aurait été délivré, on va construire 1200 places, on prend en charge la situation. Non, c'est plus possible.
C'est très clair, on veut l'échéancier, le nombre de places. À partir de là, on discute. Après,
moi j'ai une question aussi. Ouais. Donc vous attendez en fait toutes ces réponses d'ici la fin du mois. Si vous les avez pas, vous avez dit que.
la banque.
Vous alliez combattre différemment. Ça consisterait en quoi ce combat? Serait différent. Comment vous avez d'autres plans d'action ou...
On se réserve les moyens de lutte. On se réserve tous les moyens de lutte à notre disposition. C'est une formule que j'aime bien parce que ça veut dire à la fois, on parlait de plainte pénale pour mauvais traitement, c'en est une, c'est une plainte institutionnelle, ça. Ça peut être des occupations, ça peut être des grèves, ça peut être toute une série d'éléments de lutte qui seront là. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on ne laissera pas continuer ce mauvais traitement des gens, parce que c'est ça dont on parle, vraiment de manière inhumaine sur certaines personnes, dans les conditions dans lesquelles elles sont accueillies, dans les conditions dans comment elles sont traitées. Donc on ne laissera pas faire ça. Maintenant, quels sont les moyens de lutte qui seront les plus efficaces? Voilà, on verra.
On aura l'occasion d'en reparler.
Ouais.
Ça arrive super vite, en fait. C'est la semaine prochaine, quoi.
Ah ouais, mais en même temps, s'ils ont mis 200 places, ça veut dire...
Moi, je vous souhaite qu'effectivement, ils disent qu'ils ont toutes les places.
On verra.
En tout cas, s'ils font quelque chose, ce n'est pas des demandes folles. Enfin, je veux dire, il suffit maintenant de donner ce qu'ils font. Enfin, ces demandes-là, c'est juste... Mais alors,
c'est de rendre public où ils en sont, quoi.
Préciser ce que vous faites. Du coup, d'ici la fin du mois, ça ne nous semble pas très difficile, a priori, que les autorités puissent répondre à ces demandes. Après, que les autorités ferment les bunkers d'ici la fin du mois, ça n'aurait pas été possible. On ne pouvait pas faire une demande comme ça, même si, de fait, ils auraient déjà dû être fermés au moins décembre 2016, voire avant. Donc, c'est des demandes qui nous semblent très réalistes, et je pense que si vous voulez le saisir, un de votre rôle, ça serait aussi de demander ces réponses qui nous semblent assez compréhensibles, on va dire. On verra s'ils vous répondent. À nous, il y a peu de chance. Mais peut-être à vous, qui sait.
Ah, politiquement aussi, ils peuvent répondre.
Ils devraient nous répondre. Normalement, ça serait la moindre des choses.
Si vous regardez bien notre communiqué de presse, nous, on est très critiques par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais je pense que c'est assez juste parce que ça se durcit de plus en plus. Mais à aucun moment, on est en train de dire... Podja, là, ce qu'il dit... Nous, on ne va pas dire qu'il faut fermer les bunkers en mars.
Ce
n'est pas crédible. Podja dit de nouveau, ce sera au 2018. Très bien, nous on le prend au mot, on dit ok, 2018, quel est le plan concret de réalisation de ça? Parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Ça fait 2 ans et demi qu'il dit ouais, ça sera là, il donne des dates, mais sans plan de réalisation concret. Donc voilà, la demande elle est très concrète.
Fin du mois, c'est fin janvier.
Fin janvier. Non, on va pas encore la laisser février.
Si jamais vous avez un numéro de contact, parce que comme moi j'aurai ces prochains jours, si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à venir par mail, autrement vers nous, sur le mail de contact aussi. On peut vraiment repréciser. Pour les liens sur les différentes citations qu'on a, c'est sur vos sites respectifs, en particulier, la plupart du temps. Donc, n'hésitez pas quand même à nous redemander si vraiment il y en a qui, que vous ne retrouvez pas, mais voilà. On n'a rien inventé en tout cas là.
Il y a d'autres questions ou pas?
La Villa Vernier, c'était vous qui l'aviez trouvée? C'était le collectif?
Ouais, en fait, c'était assez bizarre parce qu'elle avait été occupée par des personnes qui voulaient l'habiter, qui avaient été expulsées par la police, comme souvent dans ces cas-là. Mm-hmm. Elle avait été réoccupée lors d'une manifestation. Vous retrouvez toutes ces informations sur les différents communiqués de presse.
C'était au tout début du...
Et il y avait une banderole qui avait été posée et un mail qui avait été envoyé à M. Podja qui disait « Voilà, cette maison est vide. »
Aujourd'hui, on sait qu'à Genève, il y a plus de logements vides que de sans-abri, donc c'est vrai que ce serait une piste peut-être
intéressante. Voilà, pour, je pense que vous avez aussi actuellement, parce que Pablo a cité rapidement cette maison à la route de Malagnou, je pense que vous êtes aussi en rapport avec potentiellement par presse avec les personnes qui essaient de se battre contre la table de leur maison.
La tortue, là.
C'est route de 154 route de Malagnou. Qui nous ont aussi contactés et qui seront aussi présents à la manifestation. Je pense qu'ils nous contacteront dans la semaine pour parler peut-être plus de ça.
Là, par exemple, ça va peut-être faire du bruit. Les étudiants genevois contre des migrants, on peut aussi être dans cette logique aussi. Quand vous parliez de conditions paradisiaques qu'on pouvait craindre pour l'accueil des réfugiés, ça participe de ce genre de discours.
C'est pas déjà qui le dit.
Oui, quand vous preniez cette expression, de même qu'on parle de prison 3 étoiles, et pour qui n'est jamais allé en prison, j'imagine qu'une prison 3 étoiles, qu'est-ce que c'est quand on n'a pas le droit de sortir? Qu'est-ce que c'est quand on n'a pas le droit de baiser? Qu'est-ce que c'est quand on n'a pas le droit de manger ce qu'on veut? Donc voilà, je veux dire, c'est évident que quand on porte le discours de M. Podja, on a intérêt à faire craindre des paradis ou à dire des étudiants contre des migrants, mais ces discours qui font que la population se divise, Nous, voilà, c'est ça, c'est aussi contre ça qu'on lutte, et c'est pour ça que on a tendance à faire des liens et pas à mélanger entre prison, logement, mais même comme disait Victor Hugo, on préférerait de l'éducation à des prisons. Vous voyez, c'est ce genre de lien-là que je pense que vous, les journalistes, vous avez aussi la potentialité de mettre en lumière, peut-être plus que nous qui sommes considérés comme des groupuscules, par les mêmes.
Groupuscule voilà. Toi-même.
Hein, d'accord. Groupuscule qui réclame, vous l'aviez vu, ce, quand même ce tract du MCG où c'était écrit non aux réfugiés gastronomiques. Donc voilà, j'ai de la peine des fois à croire à la candeur de M. Poggia quand je le vois, justement suite à des empoisonnements dans les bunkers, il se permet de dire stop aux réfugiés gastronomiques parce qu'on demande de manger autre chose comme les flics et comme les militaires que de la merde. Donc vous voyez, c'est ce genre de lien qu'on essaye de faire, voilà.